Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Istanbul, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, après l'accord hier entre Trump et Poutine sur une trêve limitée en Ukraine, le président américain s'est entretenu avec Zelensky aujourd'hui et estime que les discussions sont sur la bonne voie. Le président ukrainien assure, en tout cas ce soir, que des équipes ukrainiennes et américaines sont prêtes à se rencontrer en Arabie Saoudite dans les tout prochains jours. L'escalade à Gaza, Israël lance un dernier avertissement aux Gazaouis, libérez les otages et débarrassez-vous du Hamas. L'armée israélienne annonce une offensive terrestre à Gaza, où ses frappes ont déjà fait des centaines de morts ces trois derniers jours. En Turquie, l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, principal opposant au président Erdogan. Son parti dénonce un véritable coup d'État contre l'opposition. La France déplore un grave revers pour la démocratie. Enfin, aux États-Unis, l'administration Trump déclassifie les dernières archives sur l'assassinat de Kennedy en 1963. A priori, pas de révélation fracassante qui pourrait remettre en cause la culpabilité unique de Lee Harvey Oswald.
RFI.
Au lendemain de son échange téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump se félicite d'avoir eu également un très bon appel aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky et estime que les discussions sont sur la bonne voie malgré la déception ukrainienne après l'accord pour une trêve limitée conclu hier entre Moscou et Washington. Les négociations vont bel et bien se poursuivre en Arabie Saoudite. Les précisions avec vous, Nicolas Falaise.
Alors effectivement, des équipes ukrainiennes et américaines sont prêtes à se rencontrer dans les prochains jours en Arabie Saoudite, selon Volodymyr Zelensky, qui dit avoir eu une conversation positive et franche avec Donald Trump. Le président ukrainien indique qu'une première étape vers la fin de la guerre pourrait être de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et autres infrastructures civiles. Et il assure que l'Ukraine est prête à mettre en œuvre cette première étape. Côté américain, après ce coup de fil Trump-Zelensky, les États-Unis affirment qu'ils vont aider l'Ukraine à se procurer plus de systèmes de défense anti-aérienne. Réponse positive donc à une demande du président ukrainien Zelensky. Autre annonce sur le volet militaire, le partage de renseignements pour la défense de l'Ukraine va continuer, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. À l'issue de l'échange téléphonique entre les présidents ukrainiens et américains, on apprend aussi que les États-Unis proposent de prendre possession des centrales nucléaires et électriques ukrainiennes afin de les protéger. Enfin, Donald Trump a l'intention de travailler au rapatriement des enfants ukrainiens enlevés pendant le conflit avec la Russie. Pas de détails à ce stade sur cette initiative.
Nicolas Falaise, du service international de RFI. Et autre avancée du jour, les deux pays belligérants ont également annoncé avoir récupéré 175 prisonniers de guerre de chaque camp, ainsi que 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés. De son côté, l'Union européenne, elle se réarme pour faire face à la menace russe et au risque de désengagement américain. Bruxelles a ainsi donné aujourd'hui le coup d'envoi d'un plan visant à réarmer le continent d'ici à 2030. Un livre blanc pour la défense dans lequel on retrouve l'objectif affiché de 800 milliards d'euros pour mettre l'Europe de la défense en ordre de marche. Précision à Bruxelles avec Pierre Benazet.
Ce livre blanc acte pour les Européens la fin programmée de la garantie de sécurité américaine, ce que la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a qualifié ce mercredi par euphémisme de « changement de l'ordre mondial établi en 1945 ». La Commission propose une série de pistes avec pour objectif que l'Union soit prête en 2030 à combler les manques capacitaires pays par pays, défense antiaérienne et antimissile, systèmes d'artillerie et munitions, drones et guerre électronique. Elle a recensé tous les domaines où les Européens doivent se prendre en main pour en fait remplacer des capacités pour lesquelles ils sont, pour certains, totalement dépendants des États-Unis. On peut évoquer par exemple les catapultes pour porte-avions ou encore le transport tactique par air et le ravitaillement en vol. La Commission veut créer un marché unique de la défense pour que l'industrie européenne puisse répondre à toutes les commandes. Elle propose aux 27 d'arriver à 800 milliards d'euros de dépenses de défense d'ici 2030 avec des prêts directs et une flexibilité budgétaire pour que ces dépenses militaires n'entrent pas en ligne de compte pour les limites de déficit budgétaire. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et l'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est l'escalade au Proche-Orient, alors que le Hamas se dit toujours ouvert aux négociations. Israël maintient sa ligne de fermeté avec de nouvelles frappes sur Gaza, qui ont déjà fait des centaines de morts. Et cette menace ce soir du gouvernement israélien, dernier avertissement, dit-il, lancé aux Gazaouis, libérez les otages et débarrassez-vous du Hamas. L'armée israélienne annonce lancer des opérations terrestres ciblées. Une escalade qui réveille le spectre d'une nouvelle guerre meurtrière dans la bande de Gaza, où même les bâtiments de l'ONU sont désormais ciblés par les frappes israéliennes qui ont fait aujourd'hui un mort et 5 blessés ce matin. Pour le directeur exécutif de l'antenne des Nations Unies, il ne s'agit pas de tir accidentel. Témoignage à Gaza des violences d'aujourd'hui au micro de notre correspondante régionale Amira Swellem.
Iyad, travailleur humanitaire, faisait une distribution alimentaire à proximité de l'hôpital El-Aqsa de Deir el-Balah quand un mouvement de panique a envahi le quartier. C'est dans cet établissement hospitalier que l'équipe de l'ONU a été transférée. Aussitôt, il ressent le besoin de témoigner.
On a entendu le son de l'explosion quand elle a eu lieu. C'est la panique à Deir el-Balah. Les scènes que l'on voit sont vraiment dures à soutenir. Il y a un corps, un martyr de l'ONU et 5 blessés graves. Un d'eux est transféré à l'hôpital européen de Ran Younes dans le sud afin d'y être opéré en urgence. Il risque d'être amputé de la jambe.
Alors que les regards, dont ceux de l'ONU, semblent se tourner vers Israël, Iyad s'inquiète. Si des équipes étrangères censées être un peu plus épargnées que les Gazaouis sont ciblées, cela augure mal de la suite pour eux, selon lui.
C'est une catastrophe ici, toujours. La situation va empirer si les frappes israéliennes continuent. N'oublions pas que cela fait plus de 17 jours que l'aide humanitaire et la nourriture ne peuvent plus entrer dans Gaza.
L'armée israélienne a aussitôt démenti avoir frappé le bâtiment dans lequel les employés de l'ONU se trouvaient. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Un retour en arrière dramatique a estimé le président Macron, qui prévient qu'il n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza. En Israël, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Jérusalem, accusant Benjamin Netanyahou de poursuivre la guerre au mépris du sort des otages. 20h07 à Paris, un nouveau tournant autoritaire en Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté ce matin. Le principal opposant au président Erdogan est accusé de corruption. Il devait être désigné ce week-end candidat à l'élection présidentielle de 2028 par son parti, le CHP, qui dénonce ce soir un véritable coup d'État contre l'opposition. Tous les rassemblements sont interdits dans la capitale économique turque jusqu'à dimanche. Une répression politique qui a immédiatement fait chuter la bourse d'Istanbul et la monnaie nationale. La livre turque qui a atteint un de ses plus bas historiques. Les échanges boursiers ont même dû être suspendus temporairement. Deniz Ümal est spécialiste de la Turquie et économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
Il est fort possible que Istanbul soit géré par un administrateur, comme dans d'autres villes où ils ont démis les maires élus. L'idée, c'est de aussi d'accaparer Istanbul, faire taire toute l'opposition valable qui peut faire face à Erdogan et aller dans un régime autoritaire où on voit que ce régime autoritaire ne gère pas correctement l'économie. Déjà, la Banque centrale a des pressions pour baisser ses taux d'intérêt et elle les a baissés 3 fois de suite alors que ça ne justifiait pas. On est toujours à 40% de l'inflation en Turquie et ça, c'est seulement des chiffres officiels. Et de surcroît, la bourse déjà a éprouvé des difficultés quand le patronat avait été menacé ainsi, le patronat laïque. Et maintenant, évidemment, c'est pire. Ce n'est plus du tout un système capitaliste libéral qui va exister en Turquie, si ça continue comme ça.
Voilà des propos recueillis par Justine Fontaine. Aux États-Unis, le reste des archives du gouvernement américain sur l'assassinat du président Kennedy en 1963 a donc été rendu public aujourd'hui par l'administration Trump. Un assassinat qui a bouleversé les États-Unis et le monde, donnant lieu à de nombreuses théories et spéculations. A priori, en tout cas, pas de révélation fracassante qui pourrait remettre en cause avec ses archives, eh bien, la commission Warren, qui avait conclu que cet assassinat avait été perpétré par Lee Harvey Oswald et surtout qu'il avait agi seul.